discuter.
Est-ce que tu nous entends, Isabelle, maintenant? OK. La nouvelle loi sur les ingénieurs.
Vous avez mis dans Faire Nouvelle, ça.
Ils sont dans Faire Nouvelle. On l'a déjà ici, puis vous vouliez avoir, vous aviez un message que vous vouliez...
Oui, c'est ça, une invitation là, au conseil de la MRC.
Une invitation au conseil de la MRC, alors dans Affaires municipales. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez inscrire à l'ordre du jour? Alors, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Marco, Bruno. Deux personnes se joignent à nous ce soir en remplacement du maire de Moffett. C'est Mme Girard, Rita, c'est ça? Qui est la mairesse suppléante qui est avec nous ce soir pour la municipalité de Moffett. Et en remplacement du maire de Ville-Marie, Michel Roy, c'est Martin Lefebvre qui est avec nous ce soir. Bonjour Martin. Alors, je pense que l'un et l'autre, vous avez déjà assisté au conseil. Donc, merci. Puis dans le mot de la préfète, ce sera bien court. On aura une séance de travail le 3 juin prochain. Une séance de travail pour nous permettre de positionner certaines actions qui doivent s'inscrire dans la continuité, dans la suite des choses pour la prochaine et les prochaines années. Alors, on compte sur votre présence pour participer avec nous à cette rencontre de travail-là. Et autrement, on a eu plusieurs sessions de travail dans les dernières semaines. Vous avez toujours répondu présent. On sait qu'on vous en a demandé beaucoup, particulièrement avril et mai. Il y avait les services incendies, puis on en a encore une la semaine prochaine. Merci de tout le travail que vous faites pour les Témiscamiens et Témiscamiennes. Merci de votre dévouement, merci de votre participation, de votre contribution. Je profite de la séance publique pour le dire. Rarement on le dit à quel point des élus dans un milieu, ça contribue à la vitalité du milieu, puis ça contribue à la qualité de vie dans les milieux. Mais vous êtes toujours là. On a fait beaucoup de séances de travail, on a fait beaucoup de participation et vous êtes toujours là. Alors, quand on me dit qu'il y a beaucoup de municipalités au Témiscamingue puis qu'on paye trop de membres de conseils municipaux, à toutes les fois, j'ai envie de dire, vous ne savez pas à quel point vous avez des gens dévoués et quasiment bénévoles qui travaillent pour votre bien-être et votre qualité. Alors, merci beaucoup à tout le monde de votre contribution à ça. Et vous aviez un mot que vous vouliez ajouter?
Pour la réunion de travail du 3 juin, ça débute à quelle heure?
17h. 17h à 22h.
Puis alors, le champ.
Ici,
on va vous confirmer le lieu.
On va vous confirmer le lieu. Le 3 juin, c'est disponible. Si jamais on a besoin. On trouvera.
On va économiser un soir.
Alors, tout ce que vous dites est enregistré et entendu. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril. Vous avez le compte-rendu dans vos documents. Est-ce que c'est fidèle à nos discussions? Est-ce que vous avez des commentaires ou des modifications à apporter au procès-verbal?
Je propose.
Yves Ouellette propose l'adoption du procès-verbal. C'est appuyé par Carmen Côté. Merci. On est à la période de questions de l'assistance. Est-ce que dans l'assistance, parmi notre foule en délire, il y a des gens qui ont des questions? On vous aime beaucoup, merci beaucoup. Point 6, suivi des grandes priorités 2021 de la MRC de Témiscamingue. Alors, dans les grandes priorités, le premier, c'est la connectivité. Juste vous informer qu'on a eu une rencontre hier avec la FQM sur tout le déploiement qui a été annoncé en mars dernier par le premier ministre et les discussions qui ont été amorcées avec les différents câbles distributeurs qui vont offrir les services. On vous rappelle que chaque propriété qui dispose d'une connexion par Hydro-Québec sera rejointe par la fibre optique. On nous demande de contribuer. Lorsque les cartographies auront été complétées, on nous demande de contribuer comme élu municipal. Vous aurez à regarder chacune des cartes proposées pour être en mesure de de confirmer qu'on n'oubliait aucune propriété, qu'on n'oubliait personne. Et on rappelle que, puisque c'est le gouvernement qui déploie la fibre optique, les câbles aux distributeurs auront l'obligation d'offrir une grille tarifaire, d'offrir le service et de l'offrir avec une grille tarifaire similaire à celle qu'on retrouve ailleurs au Québec. Alors, la réunion d'hier nous a permis de faire le point, poser des questions. Il y avait quand même plusieurs interrogations là, pour des MRC qui avaient déjà des projets qui avaient été enclenchés, qui étaient retardés ou qui avaient été arrêtés. Alors, il y avait des ententes qui se signent entre les différents câbles distributeurs et les projets des MRC ou des municipalités qui sont déjà en cours. Sinon, pour nous, le câbles distributeur sera annoncé officiellement dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui. J'aimerais juste apporter une précision auprès des membres du conseil concernant l'inventaire. Il mentionnait hier que le fournisseur a l'obligation, tous les fournisseurs ont l'obligation de déposer un inventaire préliminaire au mois de juillet de cette année.
Juillet.
Après ça, ils doivent déposer un inventaire final pour le mois de novembre 2021.
Que nous, on aura validé.
Que nous, on aura validé, mais ils vont aussi rendre la cartographie de cet inventaire-là disponible au grand public. Oui. Je pense que tu étais partie à ce moment-là. Puis que chaque propriétaire va pouvoir aller valider lui-même. Parce qu'il va être répertorié, fait qu'il va pouvoir aller cliquer pour voir s'il va être desservi. Fait qu'il va avoir aussi la population qui va être mise à contribution dans ce travail-là. Là, je pense que ça va être important justement d'informer notre population puis faire de la publicité en lien avec cet exercice-là.
Alors, publicité, il y aura par nos mécanismes habituels, CKVM, Le Reflet et notre télécommunautaire. Nos télécommunautaires. Est-ce que d'autres questions? Merci. C'est vrai que moi, j'ai dû quitter puis que la rencontre s'est poursuivie une vingtaine de minutes après. Là, fait que, est-ce que d'autres questions là-dessus? Et la date fatidique, Isabelle, roulement de tambour, c'est septembre 2022. Alors, on passe au point suivant. Suivi des grandes priorités, les agricultures innovantes et la révision du PDZA. En fait, la dernière rencontre du comité de pilotage du PDZA s'est tenue la semaine dernière, jeudi dernier, et on a mis le point final aux propositions qui accompagnent le PDZA. Actuellement, il y a un exercice de mise en page et de faire un résumé du PDZA, mais actuellement, l'exercice de mise en page du plan de développement de la zone agricole est en cours. On va vous partager dans les prochains jours le document de travail pour que vous puissiez commencer à en prendre connaissance. Notre horizon, c'est de procéder à l'adoption du plan de développement de la zone agricole à notre prochaine rencontre en juin prochain. On avait un PDZA 2015-2020, on aura un PDZA 2021-2025. Et dans ce contexte-là, on procéderait à l'adoption en juin et le lancement officiel se ferait le 18 juin prochain. Quant aux agricultures innovantes, on a mis évidemment une grande place pour les agricultures innovantes dans notre plan de développement de la zone agricole. On a fait le lien avec notre pôle d'excellence. Je vous rappelle, demain, la journée porte ouverte sur les petites terres de Lorainville, sur le projet des petites terres de Lorainville. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Alors, il y a quelqu'un qui s'est fait mal au pied en bas. Suivi des grandes priorités 2021 de la stratégie d'attractivité. En fait, pour la stratégie d'attractivité, on se souvient qu'on avait adopté un budget important pour faire la promotion du territoire et on passait par une promotion touristique pour faire, avant d'attirer, il faut faire connaître le territoire. Donc, pour le faire connaître, on avait choisi un plan de promotion touristique qui s'est déployé au cours des dernières semaines et qui se poursuit jusqu'à la fin juin avec l'émission Van Aventure. Vous avez obtenu dans vos dossiers les faits saillants et les résultats de la campagne de promotion qui avait été mise en place avec Québecor et la stratégie d'attractivité. Alors, on parlait de terre d'aventure Et c'était, on avait, on misait sur trois grands thèmes. Faire reconnaître que le mot Témiscamingue circule dans la tête du monde et dans l'espace médiatique. Qu'on défasse un mythe. On n'est pas dans le nord, on est à l'ouest. Et qu'on montre aussi, le troisième objectif, c'était de montrer qu'on est un territoire avec une grande capacité agricole, un potentiel agricole énorme et que nos pôles d'économie sont la forêt et l'agriculture. Alors, dans les vous aurez vu, je passe rapidement certaines pages, mais vous aurez vu que, par exemple, pour le concours Terre d'aventure, il y a plus de 18 000, il y a près de 19 000 participants qui s'y sont inscrits et près de 400 000 personnes qui ont vu la publication du concours sur la page Facebook. C'est important de savoir que les participants au concours, 44 % viennent de la région de Montréal et Québec et Gatineau arrivent en deuxième et troisième position. On avait des parutions aussi dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. On sait que dans le Journal de Montréal, c'est 1 400 000 lecteurs. Journal de Québec, 700 000 lecteurs. Alors, dans ce contexte-là, on comprend qu'il y a quand même une bonne portée. Et c'était accompagné d'une vidéo sur Facebook. Là. Il y a 30 000 vues globales sur la vidéo qui était publiée. Et il y a, dans les segments de Salut Bonjour, l'émission de Salut Bonjour avec Guillaume, Guillaume sans destination, 328 000 personnes l'ont vu en direct au moment de la diffusion. Et il y a plus de 140 000 personnes qui l'ont vu sur Facebook, quand on l'a reproduit sur Facebook. Et sur Facebook, on peut dire que 227 000 personnes ont vu la vidéo passer, soit directement, soit par un partage qui a été fait. Quant à l'émission Van Aventure, elle attire à peu près 75 000 personnes à chaque semaine. Et les deux émissions qui vont porter sur le Témiscamingue seront diffusées le 2 juin et le 9 juin prochain. Le 9, on va le manquer? Non, on va avoir fini. On va finir de bonne heure le conseil, le CA. Et on est partenaire majeur de cette émission-là. C'est vraiment une belle visibilité parce qu'au début de l'émission, cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Témiscamingue. Et après chaque retour de pause publicitaire, on voit la MRC de Témiscamingue. Et le magazine Espace, notre publication sera dans les prochaines semaines. Il y a vraiment quelque chose d'important qui a été fait là. Ça marque, ça punch, puis on marque des points. On attire, Radio-Canada est ici actuellement. Le téléjournal avec Patrice Roy est ici actuellement. C'est-à-dire que Patrice Roy, lui, n'est pas là, mais ses journalistes y sont. Et pour parler du Témiscamingue, ça les a interpellés un peu, tout ça, les petites terres de Lorainville et tout ça. Et on reçoit beaucoup de demandes de venir faire des tournages ici sur le territoire témiscamingue. Alors, l'objectif qu'on avait de faire parler du Témiscamingue, on l'atteint. Maintenant, comme on se l'était dit quand on a décidé d'embarquer là-dedans, ce n'est pas une action une fois dans ta vie, ce n'est pas one-shot deal. C'est la récurrence qui va nous permettre de continuer à faire rayonner le Témiscamingue, qui va nous permettre de faire connaître le Témiscamingue et au final d'attirer des nouvelles populations, d'attirer des travailleurs, les travailleurs et leurs familles dans les emplois qu'on a à offrir. Alors, il y a une récurrence à proposer là, dans ce contexte-là. On vous invite à regarder et à partager les impacts que ça aura comme que cette campagne-là a eu. Nous, on va l'ajouter à l'infolettre aussi de la RC qui sera publiée vendredi. Parce que l'infolettre, vous la faites circuler souvent avec vos comités de citoyens, avec vos conseils municipaux. Fait que on veut que les gens sachent à quel point ça a marqué. Ça a bien rentré dans nos... et on va revenir au mois de juin avec une proposition d'appel... appel d'offres là, et une proposition de disponibiliser un budget pour la campagne de la prochaine année. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Martin, Carmen?
Moi, j'en ai un. Je veux vraiment féliciter que ce soit Lynn, que ce soit
Monia,
Catherine.
Les présente.
Il y a certainement des personnes là, que moi, je n'ai pas vu aller là, dans ce dossier-là, là, mais ça fait des années que je le pense, que je le dis à mon entourage, puis souvent, on va dire, le Témiscamingue n'est pas connu. C'est pas parce que les gens, je pense, de l'extérieur ne veulent pas venir ici, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas notre territoire. Puis, je dis pas ça parce qu'avant ça, le travail, c'est pas fait. On le fait tous en fonction des capacités et des priorités qu'on se donne, mais vraiment, je regarde l'émission, puis ce que je trouve trippant là-dedans, c'est qu'avec les publicités du Témis, pour quelqu'un qui n'est pas d'ici, là, il doit se demander même quand l'émission recommence s'ils ne sont pas au Témis. Là. Tu sais, je veux dire, la Côte-Nord, là, ça a touché la Côte-Nord dernièrement. Puis tu vois les publicités du Témis, puis les gens qui ne connaissent pas le territoire, en tout cas, ils doivent se demander. C'est vraiment intéressant. C'est bravo, puis il faut continuer dans ce sens-là. On a affaire à se faire connaître, puis les gens qui ne croyaient pas, il y a bien des années, au parc au Pémican. On a des preuves tangibles, mais c'est parce qu'il y avait du budget, hein, c'est sûr, avec le parc. Mais je pense qu'au Témis, on est capable de se faire voir, puis continuer dans ce sens-là. Puis bravo, bravo.
Merci beaucoup. Ouais. Merci, Carmen.
C'était la même phrase pour débuter. Là. C'était vraiment de féliciter celles qui ont travaillé à ce projet-là. Moi, je dis, j'habite ce territoire-là, mais au visionnement de tout ça, j'ai le goût de visiter ce territoire-là, même pour l'avoir habité. Pour l'habiter, et quand je le vois, je me dis, il y a plein de choses que je vois, des beautés là, que, tu sais, quand on y vit, on le trouve beau, mais dans ce travail-là, là, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Alors, moi, je trouve ça magnifique, vraiment, là, l'ensemble, tout ce qui est... Il y a juste Guillaume, là, quand il... Mais des fois, quand c'est chez nous, on est un peu plus... on est pas sensible, hein? On est concerné par ce territoire-là, donc il faut que tout soit parfait, parce que s'il y a quelqu'un qui ne vante pas comme on souhaiterait qu'il vante, bien... On a envie de donner juste un 8 plutôt qu'un 10 sur 10. Puis, tu sais, Guillaume, il gardait sa feuille sur la table. Puis là, moi, je disais, il me semble que j'aimerais ça que tu ne la regardes pas, puis tu puisses la raconter. C'est un détail, mais tu sais, je me disais, voyons, tu sais, j'avais l'impression qu'il l'aimait moins que moi, là, tu sais. Mais ça, c'est vraiment un commentaire de ma part d'une Témiscamienne qui aime son coin de pays. Mais tout ça pour dire que tout ce qui est montré là, c'est vraiment, c'est super bien fait, c'est accrocheur. On a des commentaires, tu sais, je pense qu'on a tous des parents ou des amis de l'extérieur qui, les fans de deux de mes beaux-frères qui sont à l'extérieur et qui ont dit « wow », là, tu sais, là, j'ai fait comme « hey, quand vous venez chez nous, je vous ai pas entendu dire ça », mais là... Alors, en tout cas, un bravo à tout ce monde-là, puis un peu comme Martin disait, tu sais, c'est moi, je pense que ça fait longtemps, tu sais, on a peut-être parti en retard sur la promotion de notre territoire, mais je pense que là, on a vraiment les pieds dedans, puis je pense qu'il faut aller de l'avant vers ça, parce que je pense que c'est magnifique.
Juste pour compléter ce que tu dis, il faut se souvenir ce qu'on se disait au printemps passé. On parle pas à nos Témiscamiens, on parle à du monde qui ne nous connaissent pas. Puis Guillaume, sans destination, on avait quand même, je pense que c'est Catherine Élisande qui avait préparé une feuille, ce qu'il ne faut surtout pas oublier de dire. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il regardait sa feuille.
Donc, l'importance de ce que tu as dit tantôt, au mois de juin, il faut se voter un budget. Parce que qu'est-ce qui va arriver au mois d'octobre? Il y a bien des maires qui seront pisés. Puis il y en a d'autres qui vont aller en élection. Puis les ceux qui sont ici, là, rappelez-vous que v'là 8 ans, puis v'là 4 ans, les projets qu'on montait, il a tout voulu les retarder pour les réexpliquer au nouveau. Mais ça, on n'a pas le temps d'attendre. On n'aura pas le temps de prendre une pause.
On ne va pas perdre le momentum.
Ça fait qu'il faut absolument, comme m'en dit, qu'on soit assez conscient que le budget qu'on va voter au mois de juin va affecter des prochains. Mais là, on est embarqué d'un bateau que je pense qu'il ne faut pas louper. Fait que ça, ça a une importance, ce n'est pas anodin. Là. Fait qu'il faut absolument aller de l'avant. Parce que ça, je suis très déçu qu'on a réinvesti ces sommes d'argent-là, retarder ou même des fois même l'abandonner. Fait que il faut être sûr que le prochain budget qu'on vote, puis vous allez avoir des chiffres, mais il faut aller de l'avant. Donc, puis vous avez confirmé en disant vos deux propos, ça confirme que ça prend un budget.
Absolument. Juste pour compléter ce que tu disais, Carmen, pour les fins d'enregistrement, les selles en question, on parle de Mounia Jacques avec son équipe, Catherine Drolet-Marchand, Lisandre Rivard et Lynn Gironne qui a chapeauté le tout. Le regard acéré de la directrice générale. Alors, merci à... Je voulais nommer les selles que tu parlais. Les seuses et les selles. Alors, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Sinon, je vais passer aux enjeux ponctuels. Alors, en 7.1, pont du ruisseau L'Africain, octroi d'un contrat pour la construction d'un pont temporaire. Vous avez l'information sur les résultats d'ouverture de l'appel d'offres qu'on avait lancé. Alors, Lynn, je te laisse.
Oui. 1,5 million. Donc, on est allé en appel d'offres du 17 au 25 mai suite à une décision du comité administratif pour autoriser justement le lancement d'un appel d'offres pour la construction d'un pont clé en main. Donc, l'ouverture des soumissions s'est faite hier à 10 heures. Vous l'avez sur la plateforme, là, les résultats. Donc, il y a eu 6 soumissions qui ont été déposées. Les montants varient là, de 394 215, j'arrondis, à 1 149 411. Il y a aussi, on vous a donné l'information pour quand est-ce que la fin de travaux est estimée là, pour la réalisation des travaux. Donc vous avez le soumissionnaire Construction MG. Donc, c'est lui qui a le plus bas prix de la soumission. Il prévoit débuter les travaux le 7 juin pour terminer 16 jours plus tard. Donc, ce serait notre recommandation d'y aller avec ce fournisseur-là. Sa soumission était conforme au devis.
Est-ce que vous avez des questions? Oui, Carmen.
Le soumissionnaire, c'est de quel endroit? Construction MG?
Aumont.
C'est où, ça?
Au Québec.
C'est un nom de famille.
Ouais. Ça vous t'aouait.
Ça prend... Moi, j'ai juste une remarque. Hein, ça prend moins de temps que celui de Gig, on dirait.
Ben oui, mais... C'est
correct. Merci. Alors, c'est proposé par Daniel Barrette.
Carmen, c'est souterrain privé ou pas, hein?
OK. Ah, c'est bon. Appuyé de Bruno. Merci. Est-ce que... Pardon? Oui, c'est ça. C'est là où je m'en allais. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un est contre? Oui. Daniel, est-ce que quelqu'un est contre? Non, ça va pour tout le monde? Alors, c'est unanime. Alors, point 7.2, le point enjeu des soins de santé. En fait, on a eu une rencontre de travail lors de notre dernière rencontre, on était très préoccupés des fermetures annoncées. On a eu une rencontre de travail sur les soins de santé. Et à la suite de ça, il y a eu des rencontres. Lors de la rencontre de travail, on avait quand même plusieurs interlocuteurs. La PDG du CISAP, le porte-parole du comité santé citoyen, la députée. Et il y a eu plusieurs discussions qui se sont poursuivies par la suite. On a eu aussi plusieurs interventions de nos collègues et d'MRC voisines à l'effet qui reprennent les mêmes préoccupations qu'on manifeste depuis quelque temps. Alors, ce soir, en suivi de notre rencontre de travail et surtout en suivi des revendications qu'on fait depuis longtemps, on arrive avec une résolution que vous avez dont vous avez peut-être connaissance. Qui dit que depuis la centralisation des soins de santé qui découle de la réforme Barrette, la centralisation des pouvoirs rend difficile d'agir rapidement dans des situations et sur nos territoires, qu'il y a une lourdeur administrative qui s'est installée et que l'absence de gouvernance et de direction locale, ça nous prive d'une autonomie qui est indispensable à l'administration de soins adaptés aux besoins de la population. On dit également que malgré l'écoute, que les élus sont conscients des lacunes que cause la centralisation, bien qu'ils reconnaissent le leadership et l'écoute de la PDG actuelle du CISAT, Mme Roy. Dans ce contexte-là, on trouve écho dans nos revendications, notamment avec la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC de la vallée de la Gatineau. En conséquence, on vous suggère de proposer et de demander au ministre de la Santé, M. Christian Dubé, qu'il rétablisse un poste d'administrateur décisionnel local pour chaque centre hospitalier de soins situé sur le territoire ici, qu'il rétablisse le poste de directeur des services professionnels et le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et la table des chefs locaux qui réunit les chefs de département d'un centre hospitalier. Que cette résolution-là soit transmise au ministre de la Santé, à notre ministre régional, à notre député, à la PDG du CISAT et au porte-parole du comité santé citoyen. Est-ce que c'est fidèle aux discussions qu'on avait? Est-ce que ça vous apparaît conforme aux besoins qu'on a sur le territoire? Si oui, je recevrai une proposition.
Monsieur Young,
vous vouliez proposer?
Oui. Moi, je peux seconder.
Norm Young, Isabelle Coderre. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Attends, je peux poser une question. Oui. Je comprends qu'on demande un poste d'administrateur, mais on ne parle pas du personnel manquant, là, tu sais, d'une solution pour combler.
Actuellement, la question c'était stratégique, c'est que nous, on fait une demande en. Effectivement, on pourrait parler de personnel manquant, mais il en manque partout au Québec. C'est pour nous autres faire avancer, on veut de la gouvernance locale pour être capable de trouver des solutions locales aux pénuries de personnel. Est-ce que tu aurais voulu qu'on le mette dans la résolution?
J'aurais pas eu ça, qu'on le mentionne.
Dès maintenant?
Parce qu'on est quand même, on se souvient, les rencontres avec Mme Roy, on était majeur ici en membre de personnel.
Alors, dans les considérants, ou dans la demande?
Bien, moi, j'aurais demandé.
Dans la demande? Parce que c'est…
on ne sait pas, là.
Je ne sais pas trop comment le demander, mais on pourrait le mettre dans les considérants tout le moins. J'ajouterais un considérant qui dit, considérant que l'impact de la pénurie de main-d'œuvre se fait particulièrement ressentir au Témiscamingue. Ça te conviendrait?
Oui. OK. Oui. Ben, il est inscrit. Il est déjà là.
Je ne l'ai pas lu. Oui, c'est vrai. Considérant que la pénurie de main-d'œuvre ressentie partout au Québec vient grandement affecter les services de santé offerts au Témiscamingue. C'est un des considérants qui est là.
On parle du Québec.
Vient grandement affecter les services de santé au Témiscamingue.
On pourrait marquer considérant que Carmen l'a demandé. Tout le monde va comprendre.
Non, mais on l'a mis dans les considérants quand même. Alors, on est toujours de norme. Isabelle, la résolution reste telle qu'elle. C'est bon. Ça va pour tout le monde?
Oui.
Unanime? Excellent. Merci. On passe au point suivant, complexe des eaux profondes. Je vais laisser la parole à Daniel Barret.
Vous avez fait un compte-rendu de tout ce qui avait été discuté dans le dernier mois, mais j'aimerais peut-être attirer votre attention sur deux points. C'est qu'on tombe réellement dans le concret à partir de maintenant. Tout le monde se disait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on s'en va-tu là-bas, tu l'avais, ça marche-tu, qu'est-ce qui va y arriver. Tout ça pour vous dire qu'il y a déjà un appel d'offres qui a été lancé au service d'architecte ainsi pour les services d'ingénierie pour déposer un genre d'avant-projet, à savoir tout ce que nous, on a demandé, si ça pouvait se réaliser et à quel coût que ça pouvait être fait. Fait que l'appel d'offres a été lancé la semaine dernière, puis on devrait, la date limite pour déposer les soumissions est 16 de juin. Et à l'automne, pas tard, on devrait savoir réellement si ce qu'on veut au Témiscamingue est réalisable au coût qu'on veut le payer, oui. Fait que c'est du concret, on va de l'avant. L'autre affaire aussi, je veux attirer votre attention, c'est qu'on a eu une très, très bonne rencontre avec la communauté de Wenoé. Assez que je vous ai joint le compte-rendu fait par France Lefort. Je pense que là-dedans, vous pouvez voir que les gens de Wenoé sont très, très intéressés à être partenaires avec nous autres. Elle sait qu'il y a un des membres de la communauté, c'est une conseillère qui veut faire partie du conseil d'administration. Ça fait que ça devrait, en tout cas, pour nous, on pense que ça devrait être profitable. Ça fait que c'était les deux points. Puis, vous avez aussi possiblement entendu hier matin Mme Nathalie Cardinal qui a fait le point. Ça faisait longtemps que la population nous demandait où c'est que c'est rendu le complexe des eaux profondes. Qu'est-ce que vous faites? Où c'est que rendu le projet de la piscine? Fait qu'hier, Mme Cardinal a été à la radio et elle en a fait un point où c'est qu'elle a expliqué toutes les démarches qui avaient été faites, qu'on avait faites à date. Fait que, est-ce qu'il y a des questions?
Moi, j'ai un commentaire, Daniel. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais dans ce dossier-là. Vraiment, merci beaucoup. Je sais qu'ils ont été exigeants, puis ça a pédalé souvent. Ça a nagé souvent. Ça a flotté beaucoup. Mais merci pour tout le travail que tu fais dans ce dossier-là.
Il y aurait peut-être quelque chose.
Oui, André.
Vous vous rappelez quand Ville-Marie a fermé la piscine? Il y en a plusieurs qui souhaitaient la garder pour étirer l'élastique en attendant une future construction. Là, si l'étude n'est pas concluante, il n'y a plus de piscine, là.
Tu veux dire?
C'est ça?
Non. En fait, là, c'est qu'aujourd'hui, ce que le comité a mis d'avant, c'est que là, on voulait avoir une piscine, mettons, avec quatre couloirs. On va avoir ça. On a tout mis, tout ça de chaud. Et là, ce qu'on est en train de regarder, c'est est-ce qu'on est capable de rentrer dans les coûts de 10 millions qu'on s'est fixé au Témiscamingue. Ça se peut que lorsque l'étude, en fait, les architectes vont regarder, puis les ingénieurs, ça se peut qu'ils nous disent que ça va coûter 10 millions, ça peut en coûter 12, ça peut en coûter 13. À partir de là, on dira, si c'est plus cher que 10 millions, qu'est-ce qu'on peut enlever? Eux autres nous feront certaines recommandations. Mais on avance toujours avec le projet. Le projet, on se dit tout le temps, on veut rester à 10 millions dans le projet, puis il faut y arriver à ça. Peut-être qu'à un moment donné, on enlèvera une glissoire ou on enlèvera... On n'a pas prévu de tremplin, c'est sûr, là, mais on enlèvera peut-être d'autres choses pour rester... Toujours bien avoir une piscine à 4 couloirs, 25 mètres, ça, c'est de quoi qu'on tient un morticus. On va avoir d'autres choses. Moins que ça, en tout cas. C'est certain qu'il va falloir aller aussi avec les appels d'offres du gouvernement. Là. Si à un moment donné, il ne sort pas aucune subvention ou aucun projet que le gouvernement mettra de l'avant, on ne sera pas à la construire non plus. Dans tout ce qu'on a prévu, il faut aller chercher 66 et 2 tiers de subvention. Le projet va de l'avant.
Ça répond à ta question, André?
Ça répond à ma question, mais on risque pareil de tomber en deux chaises.
Luc? On est plus optimiste que ça, André, un petit peu.
OK, ben reste optimiste.
Luc?
C'est pas beau.
La seule différence, Daniel, c'est que ça peut s'étirer plus de temps à cause de quel programme qu'il va y avoir. Parce qu'on vise tout haut 66. Ben, vous rappelez-vous qu'il y a des programmes, mais on est qui sortent à 50.
Oui.
Donc, pas mal plus de scènes à mettre sur la table. Est-ce que ça va retarder le projet pour attendre le bon programme? Mais, parce qu'il y a des programmes qui sont à la baisse, des fois, là.
Mais quand on a discuté aussi avec M. Mathias de Wenoé, il nous a dit aussi qu'il y avait différents programmes que nous, on ne peut pas,
au fédéral.
Qu'eux autres, eux autres peuvent,
c'est ça.
Peuvent avoir. Fait que,
c'est sûr qu'il y a un intérêt.
Tu sais qu'il y a de l'intérêt, puis ils sont très, très intéressés à l'utiliser aussi, la piscine. Là. Comme ils disaient, eux autres, ils ont... À leurs écoles, ils ont 161 jeunes présentement à leurs écoles, puis ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont entourés de lacs puis de rivières, eux aussi, puis ils sont très intéressés à ce que les jeunes de leur communauté apprennent à nager. Fait qu'ils seraient très intéressés à utiliser la piscine, possiblement une journée par semaine avec un groupe et ainsi de suite. Fait que pour eux autres, c'est un atout, là.
Mais il faut regarder les programmes.
Il faut regarder les programmes, c'est sûr. C'est sûr.
Puis que tu peux en avoir un de plus. Le fédéral, c'est sûr qu'ils vont être là à part.
Ouais.
Dans ce contexte-là, il faut avoir les plans et devis, il faut avoir des avant-projets. Je pense qu'il faut aller de l'avant.
Ouais. Puis, comme quand on avait décidé de prendre le dossier, qu'il y avait eu un appel de projet en février 2020, hein, 2020.
Oui.
On n'était réellement pas prêts, on n'avait rien mis ces tablettes-là. Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va monter tout le projet, on va se faire, on va tout monter l'affaire, puis on mettra sur une tablette en attendant qu'il arrive quelque chose. Là, mais, parce que le monter, là, on s'aperçoit que c'est pas mal grave. Si vous regardez là, au début de mes patentes, là, j'ai sorti le nombre de réunions que j'ai eues dans le mois de 22, 26 avril, 10 mai, 13 de mai, j'en ai encore. Là, ça fait que je ne suis pas celui qui travaille le plus là, là-dedans.
Et tu ne sais même pas nourrir. Hein?
Je ne sais même pas nourrir. Ce que j'ai dit à M. Mathias, c'est je nage comme une roche, tu me nages, puis je cale au fond, puis je suis à peu près comme toi.
Mais on a fait c'est en eau profonde.
Ouais.
Alors, maintenant qu'on a fini de badiner, merci ouais. beaucoup, Daniel. Merci pour tout le travail. On va passer au point 7.4, enjeu ponctuel, gestion de la COVID. Juste vous dire que ça fait pratiquement c'est plus d'une semaine qu'il n'y a pas de nouveaux cas. Il restait 3 cas à gérer dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. Ils étaient essentiellement à Rouyn. On nous parle actuellement de la vaccination des 12-17 ans qui va se déployer dans les écoles. Ça va se passer dans les écoles secondaires et ça va se passer aussi beaucoup, possiblement dans les écoles primaires aussi, où il y a des jeunes qui peuvent aller au secondaire l'année prochaine, là, les 12 ans. Mais sur le plan de la vaccination, on nous a confirmé cette semaine que les dates de seconde dose allaient être devancées. On ne savait pas exactement quand, mais M. Dubé, finalement, hier, en parlait également. Les interventions qu'on a eues, la Sûreté du Québec nous a informé qu'il y avait eu quelques surveillances qui se font dans les débits de boissons. Il y avait des enjeux sur certains débits de boissons. Ce n'est pas au Témiscamingue, c'est plus dans la région de Rouyn-Noranda. Et que durant la première fin de semaine de pêche, ils ont quand même fait plusieurs interceptions, plusieurs présences non essentielles de gens qui n'avaient pas encore la possibilité de venir se déplacer ici en région, contravention. Et actuellement, on va pouvoir recommencer à circuler à partir de vendredi. C'est la journée qui a été annoncée le 28 mai, où la circulation interrégionale va pouvoir reprendre. Par contre, la Sûreté du Québec nous suggère aussi que si on veut circuler vers Québec et Montréal, il nous suggère de passer par le Québec plutôt que par l'Ontario. Ça, c'était leur recommandation. Ils sont conscients que c'est beaucoup plus long pour les gens du Témiscamingue, mais ils nous suggèrent, ils ne savent pas comment c'est géré au niveau de l'Ontario pour rentrer et sortir. Alors, et pour vous donner l'information, 86 000 doses de vaccins ont été données en première dose et 6 000 vaccins de deuxième dose ont été administrés. Et on est en voie d'atteindre la moyenne provinciale, mais le Témiscamingue est très en avance sur la moyenne et la moyenne régionale et la moyenne provinciale. Alors là-dessus, la gestion de la COVID, ça va bien. Il semblerait qu'on pourra profiter de vacances cet été. Questions, commentaires sur la gestion de la COVID? On va continuer les rencontres à toutes les semaines avec le CISAT jusqu'à la fin juin. Les rencontres vont être distancées par la suite si la situation se maintient comme elle est là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais maintenant demander à Nadia et Daniel de venir prendre place ici en avant.
Je vais laisser
ma place parce que là, c'est
eux autres,
c'est moi la caméra,
c'est eux
qui sont allés.
Nadia, tu peux venir ici.
On va laisser. Vous savez que la MRC est responsable du développement économique sur son territoire et que ce sont. Les acteurs économiques du territoire, c'est la Société de développement du Témiscamingue. Alors, ce soir, le président, M. Daniel Bourgault, tu vas venir ici, Daniel, et la DG, Nadia Bellumeur, sont ici pour nous faire état du rapport d'activité de la Société de développement du Témiscamingue.
Vous êtes pas mal plus intimidant vu de ce côté-ci, on dirait.
Là, il te voit, c'est parce que cette caméra-là, c'est celle que les gens te
voient. On est un peu habitués aussi avec le système, c'est rendu ça notre mode de travail maintenant. Mais merci beaucoup tout le monde, messieurs, dames, de nous accueillir ce soir parmi vous. On est très heureux de vous présenter notre petit rapport annuel, des faits saillants surtout. Je pense que vous avez déjà eu des documents, si je ne m'abuse.
C'est Nadia introduire le début du truc.
Bien, en fait, je vais te sortir juste les points qui sont marquants. Il faut dire que bon, c'est le rapport qui date du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ce qui fait qu'il y a eu 2 mois normaux dans l'année. Le reste, ça a été des mois de COVID. Fait que vous comprenez que ça a quand même affecté les chiffres, mais beaucoup moins qu'on pensait. Ce qui fait qu'au niveau des accompagnements, on est sensiblement dans le même nombre d'accompagnements que les autres années, même un petit peu supérieur en termes de plan d'affaires, 74 accompagnements. Mais si on ajoute à ça les dossiers de fonds d'urgence qui étaient vraiment liés au fonds MRC, parce qu'on a eu un fonds d'urgence, le programme d'aide aux petites entreprises qui était dédié à la MRC, on monte à 103 accompagnements qu'on a fait dans l'année. Fait que c'est un peu plus élevé que les autres années. Il y a toutefois moins de dossiers de financement dans le FLI, ça s'explique. Là, les entreprises, il n'y a pas eu tant de démarrage. Les dossiers qu'on a financés, c'était 100% de l'acquisition. Fait que 226 000 d'investissement dans le FLI l'année dernière, c'est une très petite année, mais ça s'explique à cause de la COVID. Il y a eu quand même 113 000 dans les fonds d'urgence, mais si on ajoute les fonds... parce qu'on gère aussi les fonds fédéraux, bien là, il y a eu 1 800 000 d'investissements dans les fonds d'urgence. Ce qui fait qu'une préoccupation qu'on a pour les années à venir, c'est vraiment le taux d'endettement des entreprises parce que ces fonds d'urgence-là doivent être remboursés sur des très courtes périodes. Hein. C'est maximum 5 ans, puis certains moins. Fait qu'on va suivre de très près la situation. Autre point positif, le taux de rendement du FLI est maintenant positif. T'sais, le FLI est en déficit. On a eu des dossiers problématiques dans les dernières années qui faisaient que le FLI était moins que ce que la MRC devait parce que c'est un prêt qui est fait au territoire, là, 2 500 000. Maintenant, le fonds est en positif. Légèrement positif, mais il est positif. On a augmenté de 0,21, mais dans l'année, ça l'a encore monté là, depuis parce qu'on a quand même 6 mois d'année de fête. Fait que le fonds est maintenant... Il est rentable. À partir de maintenant, il est rentable. Ça faisait plusieurs années qu'on avait traîné des déficits. Il y en avait qui étaient dus à des dossiers d'abattoir plusieurs années. On a eu quelques années positives, mais là, on est revenu dans le positif. Fait qu'on est content de ça. Puis, on fait une meilleure gestion dans les dernières années, vraiment du taux de risque. Parce que le FLI, était plus problématique, bien, les dossiers plus risqués, on les finançait à la SADC pour permettre que les dossiers qui allaient bien permettent le rendement du FLI. Fait que ça, on le gère. Il y a eu quand même beaucoup de temps qui a été mis dans les fonds d'urgence, principalement du temps qu'on a mis avec la MRC pour donner de l'information aux entreprises. On a fait un petit guide d'urgence COVID au printemps passé pour donner ce qui existait comme service pour les entreprises et pour les individus qui avaient été mis dans tous les casiers postaux. Fait qu'on a mis énormément de temps là-dessus. Ça ne se reflète pas dans les chiffres. Ça, c'est évident, c'est du temps d'animation économique. Donc, puis pour les autres données, ben, vous les avez, je ne sais pas s'il y avait des questions particulières. Il faut dire que le 226 000 qu'on a mis dans le FLI a permis de générer 1,3 million d'investissements générés. Si on le calcule, c'est notre contribution versus le financement total des projets, comment ils mettent dans le milieu. Fait que c'est comme ça qu'on l'a calculé. C'est 9 prêts dans 5 entreprises, 100% en acquisition. Ce qui veut dire que l'enjeu qu'on a identifié depuis quelques années, l'enjeu de relève d'entreprise ou de transfert d'entreprise, bon, on est dedans. Là. On est vraiment dedans. Fait que les dossiers qui arrivent au bureau, c'est des relèves ou des gens qui veulent acquérir une entreprise qui est à vendre. Fait qu'on a beaucoup moins de démarrage, mais beaucoup plus d'acquisitions d'entreprises existantes. Je ne sais pas si vous aviez des éléments particuliers que vous aviez notés, que vous aviez des questions. On a fait des dossiers du fonds TAPME. On l'a commencé l'année passée vers la fin septembre, me semble, le fonds. Hein? Fin septembre, il y a eu 14 dossiers, mais là, il est tout écoulé, le fonds TAPME. Fait que, il y a eu énormément de dossiers. Ça a répondu vraiment à un besoin dans le milieu. Puis, on a une liste d'attente. Là. On a des gens qui ont dit, bien, s'il y a un autre fonds, ben, nous, on veut bénéficier de ce pont-là. C'est pour des sites web transactionnels. Fait qu'on a vu exploser vraiment avec la COVID le commerce en ligne, ce qui est une bonne chose. Puis, il y a plusieurs entrepreneurs qui nous ont dit, bah, c'est surprenant, je vais à l'extérieur du territoire quand même. T'sais. Fait que ça, c'est positif. Puis, c'est aussi pour adapter les entreprises avec la COVID. On a permis de déposer des projets qui permettaient d'adapter les entreprises en lien avec la COVID. On a toujours des demandes ponctuelles. On a marqué 37. Ça, c'est des demandes qui demandent environ 3 heures de travail. Ça ne rentre pas dans nos chiffres d'accompagnement. C'est 37 demandes qui demandent environ 3 heures de travail. Ce n'est pas des dossiers d'affaires nécessairement. On répond à des demandes d'informations ou autres, à des entreprises, par contre. Mais ça ne comprend pas les dossiers COVID. Ça, on en a eu plus d'une centaine dans des demandes d'informations liées au fonds, mais ce n'était pas vraiment de l'accompagnement, mais c'était de la demande d'informations. Fait qu'il y a 60 prêts actifs actuellement dans le FLI. On a eu un fonds touriste, puis 115 000 $ dans 3 entreprises pour le programme d'urgence aux petites entreprises.
Avez-vous des questions pour Nadia et Daniel?
Oui.
Vas-y, Luc.
Vous avez accompagné 24 entreprises dans les transferts. Les autres années, on ne le voit pas. 12 transferts abandonnés. Pour les raisons, parce que ça ne conclut pas.
Exactement. Des fois, ça ne conclut pas. Des fois, c'est le prix de vente qui n'est pas négociable puis que le releveur veut négocier. Des fois, c'est le financement ne fonctionne pas.
Le manque de personnel, es-tu lié à ça?
Le manque de personnel, non, on ne l'a pas vu. Par contre, dans les enjeux qu'on a actuellement et qu'on voit dans les dossiers, c'est que dans les transferts d'entreprise, souvent, le vendeur est bien moins prêt qu'on pense. Fait que le transfert se fait, le vendeur dit « je vais rester un an dans l'entreprise pour te coacher », la chicane pogne, parce que dans le fond, les acheteurs veulent mettre ça à leur main, puis le vendeur n'est pas tout à fait prêt à vendre ou à laisser aller vraiment la business. Puis ça cause aussi un enjeu de dire, bien, souvent, tu sais, quand tu vends ta business, tu as ton salaire, mais là, tu es obligé de payer 2 salaires. Fait que le releveur, lui, paye 2 salaires pour garder l'expertise dans l'entreprise. Fait que ça, on a un enjeu là-dessus. Puis on le travaille avec Emploi Québec pour mettre un programme spécial en place qui va payer le salaire du vendeur, mais on fait de la formation là, au vendeur.
Mais les données, vu qu'ils n'étaient pas 2017, 2018, 2019, vous aviez le même contexte dans les
oui. Années. Oui, ça, c'est un contexte qui suit pas mal tout le temps. Puis, tu sais, il y a des dossiers qu'on accompagne puis qui ne se transfèrent jamais parce que le vendeur choisit quelqu'un. Tu sais, on a des dossiers qui rentrent. Des fois, on a 3 acheteurs pour la même entreprise. Là. Fait que c'est sûr qu'eux autres se retrouvent dans des dossiers non finis. Puis ça arrive assez fréquemment. On est obligé, à ce moment-là, on attribue les dossiers à des conseillers différents pour éviter, dans le fond, les conflits d'intérêts ou les données. Souvent, on essaye d'appeler le vendeur en disant, bien, c'est privilégier un acheteur, mais ils ne veulent jamais, là. T'sais, c'est sûr qu'ils ne veulent pas perdre d'acheteur. Fait que des fois, on a 3 dossiers de la même entreprise. Fait que ça se retrouve dans ces chiffres-là.
Good.
D'autres questions pour Nadia et Daniel?
Parce qu'on est en renouvellement d'entente cette année, il faut le dire. On est là pour ça.
Et le point suivant, d'ailleurs, le renouvellement de la convention de service avec la Société de développement du Témiscamingue. C'est la dernière entente date de 2017. Vous l'aviez obtenue en octobre 2017.
Elle finissait en décembre 2021.
C'est ça. Et pour Lynn, c'était ton point, ça? Oui.
Donc, ce serait peut-être justement, là, vu que des élections municipales là, cet automne, là, il ne faut pas fragiliser l'entente. Vous êtes en accord, moi, je vous proposerais d'y aller avec un terme de 4 ans. Donc, pour cette année, parce que actuellement, c'est un problème.
Alors, Véronique Beaulé qui semble vouloir entrer, ça semble être barré à l'autre.
Je vais aller. Je vais. Merci beaucoup.
Donc, c'est ça, comme Nadia vous le mentionnait, l'entente est venue à échéance en décembre 2020. Fait que là, en réalité, ils continuent à nous rendre service, on n'a plus d'entente. Fait que moi, je vous
recommande
d'y aller pour 21, 22, 23, 24. Puis, à ce moment-là, ben, ça va donner la chance au prochain conseil de la MRC, les membres, de bien comprendre le rôle de la société de développement qui est notre bras économique sur le territoire. Donc, en tout cas, au niveau, à mon niveau, à moi, c'est ce que je vous recommanderais, là, mais ça veut dire d'y aller avec un autre terme.
Vous êtes recommandation. On n'en a pas discuté, nous, comme conseil, parce que ça avait été renouvelé, mais le fait de maintenir la société de développement à l'époque où on a le gouvernement avait amputé les CRI, les CLD et compagnie. Ça a permis de maintenir une offre de services constante sur le territoire, une intervention très précieuse, très appréciée des entrepreneurs. Et ça a permis de maintenir une stabilité aussi au niveau de notre capacité d'intervenir dans les entreprises, ce qui est précieux. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de dossier qui c'est pas tombé dans le vague. Puis c'est important de pouvoir agir de cette manière-là. Et d'avoir l'association SDT, SADC et autres interventions. Là, je pense à la coop plein air aussi. C'est important d'avoir cette conjonction-là d'activités. Ça crée une émulation, ça crée une dynamique très importante, un partage d'expertise, un maintien des expertises aussi sur le territoire. Je pense que moi, je plaide auprès de vous pour qu'on renouvelle cette entente-là pour les 4 prochaines années.
Et ça fonctionne bien.
Yves?
Ben, j'ai une question, c'est qu'on parle de renouveler l'entente, mais avec une indexation annuelle. Mais le montant de base, c'est quoi?
On est rendu cette année qui a été versé, c'était 262,912,35. Ça paye 3 ressources, 0.2. Dans le fond, on partage des ressources avec la SAD. C'est quoi?
On renouvelle le contrat avec indexation, mais ouais.
Je
reconnais
le comptable.
Okay. Et là, je peux me permettre, pour avoir été quelques années au conseil d'administration, tu sais, j'ai pris le pouls de la SDT, puis c'est vrai que tu sais, c'est sécurisant pour les employés de voir qu'on a, en même temps, on montre notre confiance envers l'organisation. C'est sécurisant pour tout le monde. Puis, c'est vrai aussi, de l'autre côté, pour les nouveaux élus, quand on arrive, quand on a le budget, quand on s'approprie tous les dossiers, ceux qui connaissent moins la SDT, c'est de s'approprier tout ça puis comprendre. Je comprends que ça peut poser, on se pose des questions, fait que c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne action de faire ça pour les 4 ans tout de suite, là, puis ils vont avoir le temps de s'approprier l'organisation pendant les années à venir.
Merci, merci du témoignage, Patricia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, est-ce que vous êtes prêts à adopter la résolution? C'est proposé par Vincent, appuyé par Marco Dénommé. Vincent Gingras, Marco Dénommé. Est-ce que quelqu'un est contre? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations. Moi, je vous remercie beaucoup, particulièrement Nadia. On a travaillé beaucoup au printemps en période de pandémie parce qu'il y avait, une urgence, il y avait un besoin urgent. Merci beaucoup de tout le temps que tu y as mis. Je sais qu'on a fait, des fois, on...
C'est correct.
Go, go, go!
Ça fait partie de la game.
C'est dynamisant, ça, c'est correct.
Oui, c'est ça.
Et en mon nom personnel puis au nom du conseil d'administration de la SDT aussi, je vous remercie beaucoup là, de votre temps ce soir, de nous avoir écoutés, mais aussi de votre vote de confiance à notre égard. Puis ce qui est très intéressant, je trouve, puis ça passe trop souvent sous silence, on a un très beau modèle avec la SDT qui aurait dû être copié-collé pour l'ensemble des provinces de Québec. On est les seuls à avoir une seule adresse pour cumuler les fonds, la MRC ou des fonds CLD, et de la SADC. Pour les entrepreneurs, pour les entreprises, c'est beaucoup plus facilitant. Moins d'intervenants à rencontrer, moins de formulaires contradictoires ou concomitants. Puis c'est des commentaires qu'on reçoit souvent des gens qui ont aussi fait affaire ailleurs, qui aiment bien le modèle, la SDT. Et le ministre de l'époque l'a réalisé un petit peu trop tard, malheureusement, je pense, pour essayer de prendre ce modèle-là ou l'amener ailleurs. Ça aurait été bénéfique pour bien des gens, je pense. Encore une fois, merci beaucoup de votre vote de confiance. On va l'user avec parcimonie et performance.
Merci,
vous, Daniel.
Merci.
Merci.
Merci de vous être déplacé pour nous rencontrer.
Ben, ça nous fait plaisir, n'importe quand. On aime ça.
Toujours pour le même montant, des fois, c'est moins cher aussi.
Deuxième opinion.
Merci. Merci. Donc,
bon, qu'est-ce que
c'est? Je m'amène les gens à voir les plus de la vie. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bye.
Bye.
Alors, on reprend les lunettes, on lit avec le masque. C'est fun. Alors, ceci étant dit, il y a un fonds dont on dispose à la MRC, qui est le fonds TPME. C'est nous qui avions renfloué la caisse avec, on est plusieurs partenaires là, pour le fonds TPME. Mais et ça a été très utilisé. Vous avez entendu Nadia dire qu'il y a une liste d'attente pour les gens qui voudraient l'avoir. On vous consulte ce soir pour autoriser une nouvelle contribution financière au fonds TAPME. Alors, Lynn, je te laisse la parole là-dessus.
Bien, comme Nadia vous l'a mentionné, là, il y a un rapport qui a été déposé, là, qui est joint à la présentation du point. Donc, on a déjà la confirmation que la Caisse Desjardins du Témiscamingue est prêt à réinjecter dans ce fonds-là à la hauteur de 10 000 $ Et au niveau de la Société de développement, eux autres, ils vont injecter un montant de 25 000 Donc, c'est de voir ce soir si vous avez un intérêt, vous aussi, à poursuivre ce partenariat-là. Puis, l'argent qu'on pourrait verser dans ce fonds-là pour être pris à même l'enveloppe de COVID-19, là, la fameuse enveloppe de 800 000 $10 parce qu'elle fit vraiment avec la vision de la ministre, là, justement, de soutenir les entreprises en temps de COVID. Donc, je vous ai pas mis de montant, j'en ai un en tête. Il est ambitieux, mais je vais vous laisser décider la contribution.
10 000 plus 25 000, ça fait 35 000.
Ça.
Quels étaient les montants de Desjardins puis la SADC avant ça, la SDT?
On est parti avec un budget de 100 000
Ils ont-tu remis le même montant? Là?
Je ne m'en rappelle pas. C'est certain que c'était minimalement ça. Là.
Ouais.
Mais je crois que Desjardins, c'était 10 000, mais la SDT, me semble qu'il était monté jusqu'à 40 000.
Puis nous autres, on avait mis combien?
50?
Nous autres, on avait mis 50 parce qu'on doublait, on avait 100 000 au total.
En fait, si je peux me permettre, c'était le résiduel du FSDET, qui était le Fonds de soutien et développement. Bon, cet ancien fonds-là avait un solde de 47 808 qui a été converti dans le fonds de la PME. Puis par la suite, c'est 45 000 qui a été injecté au total. Là. Fait que SADC, il y avait Desjardins, puis il y avait la partie de la MRC. J'ai pas les montants.
Ici, j'ai 82 000. Là.
C'est ce qui donnait 92 000 au total dans l'enveloppe initiale du fonds TAPME.
Merci, Christelle.
C'était alors, l'ancien fonds qu'on avait, oui, qu'on ne servait pas, qu'on
avait converti. C'est ça, oui.
En situation de COVID, on avait dit on va aider les entreprises en crise et on l'avait bonifié. Est-ce que quelqu'un veut avancer un montant? Est-ce que tu veux dire le montant que tu avais en tête?
Non.
Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a 35 000 sur la table. Est-ce qu'on accote le 35 000? C'est ce que tu souhaiterais?
Moi, je pense qu'on va oser. Là. On devrait possiblement essayer de remettre le même fonds qu'on avait au départ. Si on avait 82 000 au total, on devrait essayer d'aller se raccorder, se rapprocher du 82 000.
Là, tu parles vraiment... 82 000, tu parles de 45 000 à peu près, là? 45 000, 35 000?
On a 35 000, là, il nous en manque encore 45 000 pour aller à 80 000. On pourrait mettre 45 000. Parce que c'est un fonds qui est très, très utilisé.
Très apprécié.
Puis très apprécié aussi, là.
Marco, Yves?
Oui, le 800 000, là, on l'a-tu avis, lui, ou si on ne le dépense pas, ils le reprennent?
Si on ne le dépense pas, ils ne le reprennent pas, mais il faut rendre des comptes à la population sur la façon dont on l'utilise.
OK.
Et ça va faire partie des discussions qu'on a la semaine prochaine, d'ailleurs.
OK, c'est bon, mais ça veut dire, y a-tu bien des créneaux, sinon, s'il n'y a pas trop, on peut bien mettre 100 000, c'est pour les entreprises, ça.
C'est pour les entreprises. Nous, on suggère, là, il y a une proposition de 45 000. Il y avait Yves maintenant.
Moi, je suis d'accord parce que je sais qu'on a mentionné qu'on avait fait un effort dans la situation COVID, mais là, on va tomber dans la reprise économique. Mm-hmm. Ça va être un élément, c'est un outil qui est très utile, je pense, pour certaines petites entreprises pour se relancer.
Alors, le montant serait de, là, j'ai entendu 45 000 ici, Marco disait plus. Est-ce que, puis on pourrait faire la discussion en séance de travail, puis s'il y a lieu, rebonifier l'enveloppe, oui, y aller d'emblée avec 45 000?
Claire, j'ai la répartition la dernière fois.
Ah, OK, tu l'as, OK.
Donc, il y avait, comme Christelle le mentionnait, là, c'était l'ancien fonds là, de soutien au développement économique du Témiscamingue qui était rendu, il y avait un résiduel de 47 800. Après ça, la SADC a mis 15 000, Desjardins avait mis 10 000, puis il y avait l'ICAT aussi qui avait mis 20 000.
20 000, oui, c'est vrai.
Fait qu'on tombait avec une enveloppe proche de 90
000. Il ne faudrait pas en avoir moins, là.
Bien là, 45 000 plus le 35 000 qu'il y a sur la table, ça fait 80 000.
Oui.
Actuellement, le nombre qui l'ont excusé,
il n'a pas demandé à parler. Tu peux y aller, Carmen. Je t'adonne la parole.
Je commence juste un petit comité.
31 entreprises.
31 entreprises oui. qui ont bénéficié. Oui, oui, je comprends, mais combien on a d'entreprises, exemple, de territoire, on le sait-tu?
Il aurait fallu demander aux gens de la SDP avant qu'ils quittent.
On peut les texter.
S'il n'y est pas.
Ben moi, je dirais qu'un premier montant comme ça, puis on pourra réévaluer comme tu dis. Regarde, on avait déjà un premier montant.
Actuellement, ils ont déjà une dizaine d'entreprises sur la liste d'attente.
Moi, j'irais avec ça. Puis, le maximum, c'est
3 000 $.
Hein, c'est ça. Fait que dans
45 000,
quand même, on peut servir.
Avec 80 000 à 3 000, là, on peut servir quand même pas mal d'entreprises.
Une autre trentaine. Moi, je pense que j'irais.
Alors, ouais, une autre trentaine, effectivement.
N'importe.
Donc, 45 000, la proposition, c'est 45 000. Donc, proposé par Daniel Barret, appuyé de Yves Ouellet. Ah, Lynn H. Je vais prendre Lynn.
L'advenant qui ne serait pas tout dépensé, ben après ça, il peut retourner dans un autre fonds. Si,
oui.
L'important, c'est de ne pas en manquer.
C'est un fonds qui a été très apprécié, très sollicité, très apprécié. Alors, est-ce que quelqu'un compte? Non? Est-ce que j'ai oublié de demander?